Thank you so much.
La première.
What a brilliant time.
I had created this one character, Ziggy Stardust. I felt really comfortable going on stage as somebody else.
11h30, 13h.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly. This is ground control to Major Tom.
I wanted to be a musician because it seemed rebellious, it seemed subversive.
Entrée sans frapper.
Ce 10 janvier, cela fait maintenant 6 ans que David Bowie est décédé. Pour en parler avec nous, Jérôme Soligny. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission musicien, journaliste, écrivain. Vous avez rencontré David Bowie à de très nombreuses occasions, pour le magazine Rock et Folk, notamment, où vous avez fait une bonne partie de votre carrière avec l'ami Philippe Manœuvre, notamment. Et c'est vous, Jérôme Soligny, qui avez signé deux énormes briques qui ont été rééditées. Hein, David Bowie, Rainbow Man. Donc la première partie va en gros de l'année 67 à 1980, et puis la deuxième va de 83 à 2016, et vous allez étudier chaque album de David Bowie, chaque trait de sa vie. C'est un travail absolument colossal qui vous a coûté beaucoup de sueur. 5 ans de votre vie, vous l'expliquez d'ailleurs dans la préface de ce livre. Alors j'aimerais revenir sur la mort de David Bowie. Tout d'abord, évidemment, on va en parler, on va massivement parler de cet album Black Star que vous disséquez, vous aussi, hein, dans le deuxième Bowie, dans le deuxième chapitre, dans le deuxième livre de Rainbow Man. La mort de David Bowie, elle nous surprend tous, on ne s'y attend pas, alors que, bah, il est parvenu à monter un spectacle, Lazarus, à Broadway, qui est parvenu à enregistrer Black Star alors qu'il était malade, et surtout, que dans les mois qui avaient précédé, eh bien, il nous avait tout dit et nous n'avions rien compris. Par exemple, le 19 novembre sortait le premier single extrait de Black Star, c'est la plage éponyme, ça s'appelait Black Star. Et dans le texte, il y avait notamment « Quelque chose est arrivé le jour où il est mort », etc., etc., etc. Il parlait de la mort dans ce titre « Rappel ».
Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star.
Ça, c'était Black Star, donc il sortait le 19 novembre 2015. Et un mois après, le 17 décembre, sortait un autre single. Ce single, c'était Lazarus. Et là, il donnait carrément la clé. Mais nous n'avons pas compris. Les premières paroles, c'était « Regarde ici, je suis au paradis. J'ai des cicatrices qui ne peuvent pas être vues. » Évidemment, il parlait de sa maladie.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen.
On va y revenir largement avec vous, Jérôme Soligny, puisque quelques jours après, le 8 janvier, le jour de son 69e anniversaire, David Bowie sort Black Star, et deux jours après, le monde sidéré apprend sa mort. Vous étiez où? Vous faisiez quoi? Et comment vous avez vécu cette nouvelle, vous, Jérôme Soligny?
Comme un cauchemar, comme beaucoup de gens de ma génération qui ont aimé son travail. C'est mon fils, en l'occurrence, qui m'a appris la nouvelle dans la nuit. Et puis j'ai reçu très vite un texto de Mike Garson et un autre de Tony Visconti. Mm-hmm. Un à Los Angeles et l'autre à New York. Et donc voilà. Et en fait, je me suis fermé comme une huître. C'est-à-dire que je voulais entendre parler de rien. J'ai refusé toute la matinée tous les appels des médias, mm-hmm, jusqu'à temps que Philippe Manœuvre, effectivement, qui était rédacteur en chef de Rock et Folk à cette époque-là, appelle sur le portable de ma femme et dise « Faut que Jérôme vienne à Paris, etc. Faut qu'il parle à tout le monde, etc. » Et donc je suis allé faire cette journée un peu cauchemardesque, mm-hmm, et puis à la fois qui avait un côté On s'est retrouvés à quelques-uns des gens que David côtoyait en France, et finalement, ça nous a fait quand même du bien.
Mmh. Quel était votre rapport avec David Bowie? Ça a commencé par un rapport professionnel. C'était d'ailleurs un rapport professionnel. Vous l'avez interviewé à de très, très nombreuses occasions. Hein.
Oui, c'est un rapport professionnel, je tiens toujours à le dire.
Bien sûr.
Il y avait un sentiment de... Bon, j'avais une proximité qui était de son fait. C'est-à-dire que si je me retrouvais souvent backstage ou si il m'arrivait de prendre un café avec lui, tout ça, c'était que des choses de son fait. C'est-à-dire que c'est lui qui savait que j'étais là et qui disait, tiens, bah, peut-être que Jérôme on peut saluer Jérôme, etc. Enfin voilà, ça se passait comme ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps, il y avait une complicité surtout du... C'est-à-dire qu'il connaissait mon parcours et il est... Enfin, c'est quelqu'un qui s'intéressait, par exemple, à beaucoup à ce que faisaient les autres. Et, et je me rappelle qu'une dans les années 90, quand il m'avait reçu pour Black Tie White Toys, j'avais sorti un album au même moment. Et bien sûr, moi, par pudeur, je ne l'avais pas amené parce que je m'étais dit, c'est un peu gonflé, voilà, mon disque, etc. Et en fait, j'arrive et il me dit... vraiment bien le disque, hein. Bon, j'aime pas tout, mais il faudrait qu'on en parle. Et je dis, mais comment, pourquoi vous me dites ça? Il me dit, bah, parce que je l'ai demandé, moi, je l'ai reçu. Comme je savais que t'avais fait un disque, j'ai voulu l'écouter, quoi. Et voilà, quoi. Donc, il a fait ça avec énormément de gens. Il était très curieux, surtout des autres, quoi. Il estimait que tout le monde savait tout sur lui, donc il disait qu'il fallait que lui, au moins, il sache un petit peu des gens avec qui il était.
Bah, vous l'avez côtoyé professionnellement, évidemment. Vous l'avez étudié, écouté, scruté, dans tous les sens. Qu'est-ce qui vous continue? De vous fasciner dans la personnalité tout d'abord, et puis on va arriver sur la musique, dans la personnalité de David Bowie.
Bah, c'était quelqu'un de magnétique, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quelqu'un de très très talentueux, de très intelligent. C'est quelqu'un qui a mené une carrière de façon très très unique, en ce sens que il a jamais été guidé par les plein de choses qui guident normalement les stars. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui pensait d'abord à l'argent, c'est vraiment quelqu'un qui pensait d'abord à la création artistique, c'est quelqu'un qui se mettait en danger, et c'est quelqu'un que finalement ses fans ont suivi. Alors c'est aussi quelqu'un qui avait un physique pas possible, je pense que c'est très très important, il faut pas oublier ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la fascination qui continue à opérer, c'est aussi dû au physique et aussi à ses multiples personnages, donc on peut goûter. Quelqu'un qui dit j'aime pas David Bowie, c'est grosso modo qu'il aime pas la musique, parce que comme il a un peu tout fait, tous les genres, voilà. Mais c'est quelqu'un qui était très fascinant au contact, et je dirais pas privé, mais au contact. Enfin, quand on était en sa présence, c'était pas anodin. Il est pas le seul j'ai rencontré tous les monstres sacrés, tous ceux que j'écoute depuis que je suis gosse. Et je dirais McCartney est quelqu'un de fascinant, et il y a plein de gens, David Gilmour, Lou Reed, que j'ai eu la chance de rencontrer aussi. Mais Bowie avait un truc indiscutablement en plus.
Une espèce de charisme magique, hein, quand il entrait la pièce.
Mais c'est sûr. Oui, c'est sûr.
Alors, vous dites il n'a pas fait les choses pour les mêmes raisons que les autres, et en même temps, j'ai envie de vous contredire, et qui suis-je, Jérôme? Je m'excuse d'avance, mais il a voulu être une star, et ça, c'est les mêmes raisons que les autres, et il a tout fait pour l'être. Dans les années 80, quand il vient de faire la trilogie à Berlin, c'est des albums qui ont moins bien marché aux États-Unis. Il se dit, je vais revenir après le disco avec Let's Dance.
Combien moins marché partout.
Oui, combien moins marché partout, d'ailleurs. J'essayais d'être gentil, on le célèbre tout de même, mais il revient dans les années 80, et il fait Let's Dance pas que pour faire Let's Dance, il fait Let's Dance pour gagner du fric, pour redevenir la star qu'il est, un point, c'est tout. Vous le dites aussi dans les pages qu'il fait des choses quand même aussi pour les mêmes raisons que les autres de temps en temps.
Oui, c'est pas simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait il se dit, tiens, pourquoi pas, il y a un personnage que j'ai pas encore fait, c'est la star planétaire, essayons pour voir. Et forcément il faut être très gonflé pour dire je vais essayer, puis finalement y arriver, quoi. Ouais. Mais en fait il a été lui-même surpris par le succès. Enfin, je veux dire, je le raconte dans deuxième tome, mais effectivement, la tournée Serious Moonlight, par exemple, a pris de l'importance au fur et à mesure qu'elle se déroulait. Les premières salles qui avaient été réservées pour cette tournée étaient plus petites que celles dans lesquelles, finalement, il est passé, quoi. Il pouvait toujours dire « j'ai envie de jouer à la Rockstar », mais il fallait aussi y arriver. Et effectivement, il a réussi. Mais en fait, c'est un succès qui lui a... Enfin, ces années 80 qui étaient un peu en jachère comme ça, c'est parce qu'il a subi un contre-coup de ça. Il n'était pas du tout fait pour être... Moi, il m'a dit, enfin, il a dit à d'autres gens, mais à moi, en l'occurrence, je suis pas fait pour être Phil Collins, quoi. C'était ce qui était pas très cool pour Phil Collins, mais on voit bien ce qu'il veut dire, quoi. Donc c'était un artisan plus que, je dirais presque plus qu'un artiste. En tous les cas, c'était un artiste avec le sens artisan très proche.
On revient un peu sur Black Star et on parlera d'autres choses après, qui est cet ultime album sorti le 8 janvier 2016, deux jours seulement avant sa mort. Il fêtait ce jour-là son 69e anniversaire. Personne ne savait évidemment qu'il était alité à New York en train de mourir à ce moment-là et que c'était l'album testament, parce que Black Star, voilà vraiment ce qu'on appelle une sortie réussie, élégante. Il avait préparé durant un an, la dernière année de sa vie, où il souffrait d'ailleurs, il y a eu des sessions d'enregistrement qui étaient courtes parce qu'il ne pouvait plus se permettre de passer des semaines entières en studio. Il a préparé chaque note, chaque collaboration, chaque mot, chaque prise de voix de Black Star est testamentaire, quoi. C'est une œuvre colossale, non ?
Alors, je suis d'accord en partie avec ce que vous dites, puis je contredis en partie aussi, puisque le raisonnement que moi je développe, et qui est aussi d'ailleurs celui de Tony Visconti, dirait la même chose, celui des proches, ce que je n'étais pas comme Tony. Tony était au courant de la maladie, moi je n'étais bien sûr pas. Quand l'album a été enregistré, David était quelqu'un de malade, mais pas quelqu'un qui savait qu'elle allait mourir. Oui. Moi j'ai perdu mon père de la même maladie alors que j'écrivais Rainbow Man. Mon papa, jusqu'à la fin, ou jusqu'à 3 mois avant la fin, a cru que s'il allait pouvoir être guéri. Et quand Bowie enregistre Black Star, il pense qu'il peut être guéri. Par contre, en revanche, il se dit pourquoi pas déjà faire une espèce de création artistique à partir de là. C'est-à-dire que j'ai pas envie de mourir, je pense pas que je vais mourir, j'ai encore très bon espoir, il était entouré des meilleurs médecins, on imagine, mais bon, pourquoi pas imaginer que je serais mort. Voilà ce que je veux dire. Et en revanche, et là où je vous rejoins, c'est que quand il tourne les deux derniers clips, ceux que vous avez mentionné les singles, mais les clips qui sont les clips de ces chansons-là, là pour le coup, il est tout à fait, il est malheureusement, il sait grosso modo que ça va pas être facile d'en revenir, et là. Il y a une espèce de mise en scène dans les clips qui est indiscutable, qui est quand même très très énigmatique. Bien malin celui qui pourra. Il y a des gens qui ont la prétention de pouvoir analyser tous les signes ou d'expliquer tout. Moi, je peux vous assurer que je connais bien mon sujet, mais je suis pas en mesure d'analyser tout et j'ai pas envie d'analyser tout d'ailleurs. David Bowie avait une œuvre qui, enfin, c'est une œuvre qu'on peut aborder en connaissant bien le sujet, mais sans la connaître. C'est un peu comme un tableau comme Guernica. Si on a toutes les clés pour comprendre Guernica, c'est formidable. Mais si on les a pas, on se prend quand même Guernica en pleine tête, et je pense que c'est important aussi, quoi. Donc, effectivement, quand il l'enregistre, il sait qu'il est malade, évidemment, mais il n'est pas convaincu qu'il va mourir. Par contre, quand il tourne les clips... Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier de l'interprétation des textes de Black Star en disant, oui, ça y est, il a tout programmé, il a tout mis en scène. Moi, je peux vous dire que jusqu'à la fin, il a espéré s'en sortir comme tous les gens gravement malades, malheureusement.
Alors, au début du chapitre sur Black Star, dans votre livre, Rainbow Man, David Bowie, dans le deuxième tome, en l'occurrence, 83-2016, puisque l'album sort en 2016, vous mettez toujours des petites citations au début de chapitre, et puis aussi des citations de David Bowie, des extraits d'interviews. Et il y en a une dont, d'ailleurs, la mention 1997-2002 m'échappe, vous allez me l'expliquer, Jérôme, mais je la lis, et je me demande pourquoi vous l'avez mise là. Je cite, c'est David Bowie qui parle.
J'en prie.
« J'ai passé ma vie à essayer d'apprendre, à chercher, à tenter de comprendre, à être curieux. Je ne vois plus de gens curieux. C'est effrayant. Parfois, il y a vraiment de quoi être triste pour les jeunes qu'on assiste à se vautrer dans l'absence de toute connaissance. Je comprends ce déluge d'informations auquel nous sommes confrontés et je comprends comment on en est arrivé là. Les gosses sont tellement inondés qu'ils ne savent même pas par où commencer à apprendre. Leur premier réflexe est de reculer et de se dire « fuck off, je ne veux rien savoir ». Pourquoi vous avez mis cet extrait-là, là ? Et qu'est-ce qu'il veut dire pour vous de David Bowie, dernière période ?
Le David Bowie que j'ai côtoyé à la fin des échanges que j'ai eus avec lui, c'est-à-dire 2003-2004, puisqu'après il s'est refermé comme une huître et nous avons échangé parfois par email ou par court message, mais la dernière interview comme ça que j'ai eue avec lui, c'était à cette époque-là, j'ai vu un homme en colère. Et je suis pas le seul, mais moi, en tous les cas, j'ai vu un homme en colère et qui a passé beaucoup de temps à me dénigrer plein de choses qu'il n'aimait pas dans ce qui se profilait. Et encore, c'était bien avant, ou plutôt, c'était les prémices de l'explosion des réseaux sociaux, des choses comme ça. Et il était déjà très arrogant par rapport à tout ça, parce que ça lui plaisait pas la tournure. Et comme il avait lui-même à cette époque-là un enfant, une fille qui allait grandir, qui aujourd'hui a 20 ans, il était très sceptique sur le futur. Alors il disait aussi qu'il pouvait pas se permettre de prédire que ça allait être une catastrophe, parce que quand on a un jeune enfant, on n'a pas envie que ce soit terrible pour lui, quoi. Mais c'était ce qui était ironique, c'est que c'est quelqu'un qui a été fasciné toute sa vie par les dystopies, et finalement le monde d'aujourd'hui ressemble un peu à ça. Et même si en plus ça, pour le coup, le Covid, il l'avait pas vu venir certainement, mais en tous les cas, il y a plein de choses qui lui plaisaient pas. Et ce qu'il détestait le plus, c'était effectivement les gens qui n'étaient pas curieux et les gens qui n'avaient pas envie d'apprendre. Il disait toujours qu'il avait passé sa vie à apprendre, c'est ce qu'il a dit dans cette interview, et c'est quelqu'un qui lisait toujours 4-5 bouquins en permanence. Ouais. Quand il avait un ordinateur, il était un des premiers à avoir un ordinateur portable. Ses amis m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un ordinateur portable avant que lui en ait un. Après, un ordinateur portable avec un écran couleur, enfin, ouais, il était toujours à la pointe de tout. Mm-hmm. Mais en fait, c'était parce qu'il bouquinait dessus, ou parce que ceci, ou parce que cela, mais il était comme une éponge, quoi, en permanence. Et il aimait aussi le fait qu'il fallait gratter. C'est-à-dire que aujourd'hui, un jeune qui voudrait découvrir David Bowie, par exemple, il va sur YouTube, il passe la journée dessus et il va voir tout David Bowie d'un coup, quoi. Mm-hmm. Et lui, il pensait que c'était bien que les choses arrivent progressivement. C'est un peu comme les gens qui regardent une série aujourd'hui. Si on aime bien une série, il y a des gens qui regardent tout en un week-end, par exemple. Mm-hmm. Et lui, il pensait que ce qui était important, c'était l'attente entre les choses, l'attente entre les disques, l'attente entre les livres. Et voilà, quoi. Et bon, maintenant, c'était le point de vue de quelqu'un qui vieillissait et qui avait qui était aussi un papa et qui voulait pas être un papa qui allait dire ah, putain, c'était mieux avant, tout est pourri. On peut pas dire ça, quoi. Mm-hmm. Voilà.
Et il faut souligner, et vous dites, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans l'étude des textes de Bowie, vous le répétez plusieurs fois d'ailleurs dans Rainbow Man, mais il faut tout de même rappeler, vous dites, il était tout le temps en train de lire, que c'était un garçon extrêmement cultivé, il adorait le Moyen-Orient notamment, l'Asie, il a beaucoup lu, il a beaucoup vu, il a d'ailleurs joué dans pas mal de films aussi, et il faut quand même souligner, ça va jusqu'aux chaussures rouges de Let's Dance, qui a l'air d'être une chanson assez légère, mais que les citations sur la littérature, l'histoire de l'art, etc., sont légion, et que c'est extrêmement érudit, finalement, l'œuvre de David Bowie.
Ah oui, tout à fait, mais c'est pour ça. En fait, c'est quelqu'un qui a ouvert des portes. En fait, il a ouvert l'entrée d'un labyrinthe, et puis après, on allait se perdre dedans ou pas. Je veux dire, comme beaucoup de gens de ma génération, quand il a parlé du Velvet Underground la première fois, on savait pas du tout ce que c'était que le Velvet Underground. Et pour savoir ce que c'était que le Velvet Underground en France ou en Europe au début des années 70, il fallait être curieux, il fallait gratter. On pouvait même pas en trouver chez le disquaire, enfin, tout ça. Donc c'était et c'est valable pour les peintres qu'il a mentionné, pour les cinéastes qu'il a mentionné. Voilà, c'était quelqu'un qui c'est-à-dire qu'en fait il était pratiquement amateur d'art avant d'être lui-même artiste, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie il s'est intéressé aux autres, il s'est intéressé aux groupes, il s'est intéressé aux films, il s'est intéressé aux humoristes, par exemple il était très ami avec Ricky Gervais, parce que Ricky Gervais le faisait rire, mais il avait adoré les Monty Python et il adorait Ricky Gervais, enfin il était tout le temps en train d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, quoi, comme si le moteur de sa vie, l'électricité de sa vie, ça avait été les autres.
Ouais. Si vous aimez Ricky Gervais et David Bowie, revoir la série The Extras de Ricky Gervais, dans laquelle il y a un épisode avec David Bowie où Ricky Gervais veut rejoindre le carré VIP dans lequel se trouve Bowie dans une boîte. C'est à pleurer de rire. On écoute ce morceau Lazarus, où effectivement il y avait la connaissance de la maladie, pas la certitude de la mort, mais toutefois quand même il lui disait « Regarde ici, je suis au paradis, j'ai des cicatrices que tu ne peux pas voir ».
La première.
Being an artist of in any way, any nature, is a kind of a sign of a certain kind of dysfunction, a social dysfunctionalism anyway.
11h30, 13h.
I wish you could swim.
It's an extraordinary thing to want to do, to express yourself in such rarefied terms.
Entrez sans frapper.
Jérôme Soligny est notre invité. Vous avez, Jérôme, à de très très nombreuses reprises côtoyé David Bowie dans le cadre professionnel et d'interview, notamment pour Rock et Folk. Et vous avez publié deux épais bouquins sur David Bowie, Rainbow Men, qui s'attache à étudier sa carrière du début à la fin, du premier album en 67, David Bowie, puis aura Space Oddity, puis The Man Who Sold the World, puis Hunky Dory, et puis évidemment The Rise and Fall of Ziggy Stardust, et puis Aladdin Sane, et puis Diamond Dogs, Young American, Station to Station, Low, Heroes. C'est presque insultant, cette discographie, jusqu'à Black Star, sorti deux jours avant sa mort, le 8 janvier 2016, le jour de son 69e anniversaire. Il a eu consacré la dernière année de sa vie, David Bowie, à d'un côté mettre sur pied un projet de comédie musicale, qui s'appelle Lazarus. Lazare, on rappelle que Lazare, c'est celui qui est revenu d'entre les morts, tout de même, hein, dans ce célèbre livre, qui date d'il y a quand même longtemps. Et avec Michael C. Hall, le mec qui fait Dexter dans le rôle principal. Et puis, évidemment, à l'enregistrement de Black Star, avec Tony Visconti, son ingénieur de toujours, et puis un jeune groupe de jazz emmené par le saxophoniste qu'on entend d'ailleurs sur le morceau, qui s'appelle Donnie McCaslin. On dit, évidemment, David Bowie n'avait pas... dit qu'il était malade publiquement, parce que évidemment il n'était plus dans les médias, l'information n'avait pas filtré non plus dans les masses médias comme on dit. Comment il a fait pour ses collaborations? Vous expliquez, Jérôme, que dès qu'on rencontrait David Bowie pour le travail à cette époque-là, finalement on devait signer une espèce de document de confidentialité par rapport au secret qu'il vous avait divulgué, à savoir son cancer.
Oui, c'est-à-dire que c'est une procédure d'ailleurs qui ne date pas que de la fin, en fait. Ça a été fait il y a très très longtemps. C'est-à-dire que déjà, quand il a enregistré l'album Low, qui a été enregistré pour 70-80% en France, au château d'Hérouville, le personnel du château avait signé aussi déjà à cette époque-là des espèces de ce qu'on appelle des NDA, quoi, qui fait qu'on ne raconte pas ce qui se passe là, et c'est resté là, quoi. Donc,
c'était quelqu'un qui se passe qui était... à Hérouville reste à Hérouville.
Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui était, je préfère le mot privé que le mot secret. C'est-à-dire qu'il partait du principe. C'est-à-dire que lui-même s'intéressait pas tellement à la vie des artistes. Il s'intéressait plus aux œuvres d'art. Une fois, il m'avait dit qu'il aimait bien Hitchcock, mais ça l'intéressait pas de savoir beaucoup de choses sur la vie d'Hitchcock, quoi. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a jamais fait d'autobiographie. Il l'avait évoqué à une époque. Mais finalement, il pense que si on veut savoir des choses sur lui, il faut découvrir son œuvre ou la réécouter, quoi.
Vous dites tout à l'heure, il était très inquiet des réseaux sociaux qui arrivaient. On rappelle qu'il est mort en 2016. Cette interview, elle datait de 2004. 2004, ça veut dire que Facebook n'existe pas encore, qu'on est vraiment aux prémices de ce que va devenir Internet. Et je suis